communication, Victor. Bonjour et bienvenue sur les zones de CKUT.
Bonjour Raymond et merci de nous recevoir encore une fois.
Alors, il est quand même important de souligner la dernière fois qu'on a eu une entrevue. Malheureusement, on parlait du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Qui croyait qu'on allait tomber dans cette même tragédie?
On a tous espéré ne pas le revivre et malheureusement, la terre a tremblé à nouveau. Merci Raymond de me permettre de transmettre mes plus sincères condoléances à toute la communauté haïtienne, aux gens affectés par ce tremblement de terre, aussi à leur famille, à leurs proches. C'est encore une fois une catastrophe qui frappe malheureusement ce pays qui n'a rien demandé, et qui n'a rien fait de mal. Mais encore une fois, on a une communauté à Montréal qui se mobilise, qui devra continuer à le faire. Et à ce moment-ci, que dire d'autre que nous sommes de tout cœur avec la communauté haïtienne, avec les Haïtiens là-bas, et qu'il faut absolument donner à la Croix-Rouge, il faut se mobiliser, continuer ce que la communauté fait déjà, elle le fait très bien, c'est important de le souligner. Beaucoup d'initiatives qui sont en place, mais à ce moment-ci, il faut aider, on a besoin de moyens là-bas, et malheureusement, la terre a encore tremblé, c'est très malheureux.
Alors, je vais dire quelque chose qui ne t'engage pas. Moi, j'étais sur le terrain, j'ai constaté le travail de la Croix-Rouge. Moi, je pense qu'il y a quand même des organismes qui sont là depuis des années, sans interruption. J'encourage d'encourager ces organismes. Alors, on va continuer à autre chose. On est en pleine période électorale. Un déclenchement d'élections qui tourne mal pour Justin Trudeau et le président Joe Biden avec la crise de l'Afghanistan et Victor.
Oui, tout à fait. Puis la situation afghane, hein, situation particulière, ça a repris une semaine, quasiment une dizaine de jours après le début du retrait des forces américaines pour que les talibans prennent complètement le pouvoir en Afghanistan. La communauté internationale se dit outrée. En même temps, c'est un peu surpris parce que j'espère que l'intelligence militaire qui était présente en Afghanistan avait anticipé ce qui allait arriver. Tu sais, Raymond, lorsque une armée est sur le terrain, il y a toute une structure d'intelligence autour qui devrait nous permettre d'anticiper des situations comme celle-là. Je pense que les Américains savaient que les talibans étaient sur le point de revenir. Bien entendu, aujourd'hui, la priorité, c'est de protéger les gens qui ont collaboré avec les forces étrangères, parce que c'est eux qui sont en péril. Mais malheureusement, l'Afghanistan, il semblerait qu'une partie de la population a fait le choix de revenir sous l'égide talibans. Espérons que ça se passe pour le mieux, mais surtout protégeons les gens qui ont décidé de collaborer avec les forces étrangères durant toutes ces années bien.
Alors, c'est quand même important de souligner les deux chefs d'État, le premier ministre du Canada et le président Biden se trouvent dans une situation très difficile. Quand on n'écoute pas les spécialistes, c'est ça qui arrive.
Ben, c'est ça qui arrive. Puis, quelque part, le président Biden a réitéré le fait que le 31 août, les forces américaines auront quitté l'Afghanistan. Le premier ministre Trudeau, lui, est prêt à ce qu'on fasse des gestes supplémentaires. Dans le fond, le premier ministre Trudeau appuie la stratégie du Royaume-Uni dans ce cas-ci. Mais je le répète, hein, les États-Unis gardent la date du 31 août. C'est parce qu'ils savent ce qui s'en passe. Ils savent ce qui est en train d'arriver. Et je pense que d'une certaine façon, sans avoir une défaite comme celle qu'on a eue au Vietnam pour les Américains, on va quitter avant de se faire défaire. Parce que je pense que du côté américain, on sait que cette bataille est probablement perdue. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas lorsqu'on regarde une situation comme l'Afghanistan d'ici. Et il y a beaucoup de choses que les politiciens d'ici ne comprennent pas non plus. Malheureusement, je pense qu'il y a une situation qui est inévitable.
Alors, ce qui est quand même très compliqué pour Justin Trudeau, c'est que l'ambassade du Canada a été fermée, le personnel rapatrié, mais il reste quand même les traducteurs qui sont encore là. Et Justin Trudeau a promis de rapatrier 20 000 Afghans. Et le Québec veut faire sa part également. Est-ce qu'il va avoir le temps? Parce qu'on n'est pas tellement, on est très loin de 20 000 rapatriés parmi les traducteurs.
Non, c'est clair. On est à peu près à 2 000, 3 000 rapatriés par jour. Je suis d'accord avec toi, Laurent. C'est là la grande priorité. Je pense qu'en même temps, tu sais, en géopolitique internationale, il y a quelque chose qui se négocie à porte close. Les talibans ont démontré depuis leur retour au pouvoir une volonté de calmer la communauté internationale. Ils veulent faire croire à la communauté internationale qu'ils vont gérer différemment cette fois-ci. Et je pense qu'une des façons de le faire, ce sera aussi de permettre des rapatriements au-delà du 31 août. Je m'attends à ce que, si les rapatriements n'ont pas été complétés, on prolonge un peu cette date. Est-ce que ça va prolonger la présence officielle des Américains sur le territoire? Non, mais il pourra y avoir des corridors de sécurité qui pourront rester en place pour une certaine période. C'est dans l'intérêt des talibans aussi de le faire, puisqu'ils veulent avoir une certaine tranquillité de la part de la communauté internationale.
Très mauvais moment pour déclencher des élections avec un gouvernement minoritaire, supporté par le nouveau parti démocratique, mon ancienne formation politique, pour le dire, et 5 formations politiques discutent cette campagne. Et on voit qu'il y a une baisse du côté du Parti libéral par rapport au tout début, avant même les élections, entre les conservateurs et le Parti libéral. C'est quand même très important de le souligner.
C'est important de le souligner, Raymond. Il y a un élément qui est essentiel dans tout ça. Tu sais, Justin Trudeau a déclenché son élection et quelques jours plus tard, la Nouvelle-Écosse est devenue la première province à changer de gouvernement durant la pandémie. Ce qui est arrivé en Nouvelle-Écosse, c'est qu'au déclenchement de l'élection, le gouvernement minoritaire libéral, également minoritaire à ce moment-là, avait un taux de satisfaction au-dessus de 50 %. Tout le monde pensait que le gouvernement serait réélu facilement et finalement, la Nouvelle-Écosse se retrouve avec un gouvernement conservateur minoritaire. Les chiffres au fédéral nous indiquent une tendance semblable. Les conservateurs ont pris 3 points depuis le début de l'élection. Justin Trudeau en a perdu 3 également. Du côté du NPD, on stagne un peu, mais on reste quand même à des niveaux intéressants au-dessus de 20 %. Donc là où est-ce que Justin Trudeau s'est dit « Je pense que ma gestion de la pandémie me permettra d'avoir un majoritaire », on est aujourd'hui à se demander est-ce qu'il sera encore Premier ministre du Canada à la fin de cette élection. Permets-moi d'en douter, Raymond. La tendance semble se dessiner. Il y a une volonté de changement qui apparaît. Et tu sais, dans tout ça, il y a Erin O'Toole qui souffre d'un déficit de notoriété, mais qui va avoir 3 débats des chefs pour se faire connaître. Pour lui, c'est une opportunité extraordinaire. Rappelons-nous à la dernière élection comment Andrew Scheer avait échoué. De prendre cette opportunité-là. Il avait été très mauvais lors du débat. Je m'attends à ce qu'Erin O'Toole soit bien différent. Et si Erin O'Toole performe ne serait-ce que bien dans les débats, même pas besoin d'être extraordinaire, mais juste de bien performer dans les débats, je pense que ça peut changer très vite et on pourrait se retrouver avec un gouvernement conservateur minoritaire.
Alors, il n'est pas impossible que le chef du Parti conservateur peut jouer sur le terrain et avec le Parti libéral et le Bloc québécois. Ce n'est pas pour rien qu'il visite assez régulièrement et la province de Québec.
C'est là où ça va jouer, parce que tu sais, Raymond, pour d'abord, le Bloc québécois a fait une campagne très forte au Québec. Monsieur le chef du Parti du Bloc québécois a démontré ses qualités de politicien. Il a fait une bonne campagne la dernière fois. Cette fois-ci, c'est cette course à 3. Les conservateurs voient une vraie chance, le pacte avec les Québécois. Erin O'Toole fait beaucoup d'assemblées virtuelles avec les gens. Rappelons-le, Erin O'Toole est le seul chef à dire publiquement qu'il va diminuer fortement les événements publics. Donc, il fait beaucoup d'assemblées virtuelles. M. Blanchette est un très bon chef pour le Bloc. Je dirais que dernièrement, j'ai eu plus de difficultés à voir les sujets sur lesquels il va vraiment s'appuyer pour faire monter son parti. Et du côté de Justin Trudeau, on doit reprendre le cap. On sent qu'on a échoué dans ce début de campagne. On n'a pas réussi à tenir les électeurs du bon bord. Puis je pense qu'on a encore de la misère à clarifier pourquoi on est en élection au Canada. Justin Trudeau va devoir littéralement montrer que son plan est le meilleur plan pour le Canada post-pandémie. Parce que c'est ça la priorité. Il a dit aux Canadiens, je veux que vous choisissiez le parti qui va créer le Canada de la post-pandémie. Et il semblerait qu'à ce moment-ci, les Canadiens ne savent pas nécessairement s'ils veulent donner ces rênes-là à Justin Trudeau. Rappelons-le, Justin Trudeau a un déficit abyssal, plus de 400 milliards de dollars de déficit. Et je m'attends à voir les conservateurs travailler beaucoup sur ce chiffre-là. On sait qu'au Canada, nous n'aimons pas les grands déficits comme citoyens.
Ce est important du côté de François Blanchet, il est cohérent et il est très sûr de lui. Et il a fait un coup cette semaine, c'est quand même à supporter le lien. Qu'on sait que c'est quand même le dada du Premier ministre du Québec.
Oui, de toute façon, oui, tout à fait. Jean-François Blanchet est clairement aujourd'hui le porte-parole du gouvernement auprès du gouvernement fédéral. On le sait depuis le début. Sur la loi 21, sur le troisième lien, il y a un lien naturel entre François Legault et François Blanchet. En même temps, un lien que François Blanchet entretient beaucoup plus que François Legault lui-même, il faut le dire. M. Blanchet sait que François Legault est populaire, que ses idées sont populaires. Il s'accroche à elles et il se fait le défenseur de cette indépendance, de cette autonomie du Québec dans ses décisions auprès du gouvernement fédéral. Maintenant, ça reste que tu le sais, Raymond, à chaque élection, ça va revenir au même débat. On va avoir un débat des chefs où les chefs des partis vont dire « Oui, mais François Blanchet ne sera jamais au pouvoir, donc tout ce qu'il dit, il ne peut pas le réaliser. » C'est toujours là le grand défi du Bloc. J'ai hâte de voir comment François Blanchet va s'en sortir. Mais je pense que, comme tu dis, il a toutes les qualités pour le faire adéquatement. C'est un bon communicateur, c'est un chef qui a démontré des qualités importantes.
Un candidat qu'il faut surveiller, c'est le chef du nouveau Parti démocratique. Et en parlant du nouveau Parti démocratique, non seulement Jesse Singh, il est très populaire également, il faut souligner également le 10e anniversaire et du décès de Jack Layton, qui était quand même un chef très connu, qui avait fait quand même des gains au fédéral, et ce que mon ancien leader, en parlant de Ed Broadbent, n'est pas arrivé à faire.
Ce que personne n'avait réussi à faire, Raymond, il faut se le dire. Hein. Jack Layton a marqué la politique canadienne. Moi, son souvenir me rappelle un mot principalement, c'est simplicité. Jack Layton était un homme proche des gens, un homme simple, avec des idées claires, une communication parfaite et une proximité sincère. Ça a amené le NPD à faire une place dans le cœur des citoyens, parce que les gens qui ont voté pour le NPD en 2011 l'ont fait parce qu'ils y croyaient. Les gens qui ont voté pour Jack Layton l'ont fait parce qu'ils aimaient Jack Layton. Et c'est probablement un des derniers politiciens qui a eu autant d'amour de la part des gens. Même les gens qui n'ont pas voté pour lui disaient « c'est un bon chef, on a le goût de prendre une bière avec Jack ». Retrouver ça, c'est aussi le plus grand défaut pour Jack Layton. Parce qu'il sera constamment comparé à un homme à qui il est difficile d'être comparé. Et c'est là le grand défi. Oui, les 10 ans de Jack Layton permettent peut-être de rappeler aux gens. Oui, dans la région de Toronto, on semble voir une certaine montée du NPD. Je pense que pour Jack Layton, rappelons que c'est l'élection de la dernière chance. Mais en même temps, Jack Layton ne sera jamais Jack Layton. Et ça, je pense que c'est là aussi où les électeurs du NPD devront trouver d'autres raisons de voter pour Jack Layton. C'est un très bon chef. C'est-à-dire qu'il est charismatique. C'est un jeune homme charismatique. Je pense que il faut connaître aussi la carrière de Jack Layton au provincial pour savoir à quel point c'est un homme qui est capable justement de mobiliser les gens, qui est un très bon communicateur. Mais il doit sortir de l'ombre de Jack Layton pour être capable d'amener ce parti à un prochain niveau. Et je pense que ce sera probablement sa dernière chance parce que au NPD, on risque de devenir impatient si on a encore des chiffres en bas de nos attentes à ce niveau.
Il faut souligner que c'était un homme simpliste comme conseiller municipal à Toronto. Il ne prenait pas sa voiture, c'était sa bicyclette.
Tout à fait. Puis c'est ça où est-ce qu'il gagnera à être connu. Hein? Jack Layton, c'est un homme qui, on le voit sur TikTok, tu sais, c'est un type qui est très présent sur les réseaux sociaux avec une communication très tournée vers les jeunes. Puis on voit un gars très simple, très vrai. Mais il reste que, une fois qu'on a dit ça, il faut amener le contenu. Il faut amener les idées claires. Il faut que les positions soient claires. Et ça, du côté de la politique, on doit travailler là-dessus, principalement au Québec, où est-ce que, d'une certaine façon, on ne le connaît pas, où est-ce qu'en même temps, on doit aller au-delà aussi de son identité. Donc, c'est important. Au Québec, on le sait que ça peut être un enjeu. Sa position sur la loi 21 a été très claire, mais pas nécessairement partagée par la majorité des Québécois. Alors, c'est là où Jack Layton a une très haute côte à remonter. Il sera peut-être plus dans l'ombre lors des débats, et ça peut l'aider. Parce que, tu sais, dans un débat, on veut des surprises. Et souvent, c'est à travers ces chefs-là qui
sont pas nécessairement attendues qu'on trouve les plus belles surprises dans un débat des chefs. Rappelons-le, face à face le 2 septembre, débat en anglais-français le 8 et 9 septembre prochain, ça va arriver rapidement.
Ce qui est important du côté de Jackie Singh, c'est qu'il parle pour le peuple. Et c'était comme Jack Layton. Et on voit qu'il défend la question de santé, la question de logement, et surtout il y a une pénurie du logement et au Canada. Et en même temps, lui, il est toujours là pour défendre la cause du peuple.
Oui, mais oui, tout à fait. Et c'est aussi une grande difficulté pour Jack Layton. Une des grandes difficultés, c'est que le gouvernement libéral a été un gouvernement très dépensier. Et tu sais, rappelons-nous, Jack Layton arrivait avec un gouvernement à l'époque conservateur qui était très économiste, qui était très pro-économie, qui avait laissé un peu tomber ce peuple dont tu parles. Alors que du côté de Justin Trudeau, on a gouverné beaucoup à gauche. On a dépensé beaucoup, on a gouverné à gauche. Jack Layton, c'est pas pour rien que le NPD a appuyé deux budgets de Justin Trudeau. Et là, à ce moment-ci, il doit démontrer pourquoi, même si les libéraux sont à gauche, le NPD serait mieux. Et c'est ça son grand défi. Je pense qu'il est capable de le relever. Cependant, il y a une mouvance que tu vas voir aussi. C'est que si les électeurs commencent à tourner conservateurs et que les conservateurs semblent prendre l'ascendant sur l'élection, ça va devenir plus naturel d'éviter ce vote où les libéraux le disent constamment. Un vote pour le NPD, c'est un vote pour les conservateurs. C'est ça que les libéraux ont amené toute la dernière élection. C'est le speech numéro un pour eux, principalement en Ontario, parce qu'ils ont besoin du vote néo-démocratique pour être capables de gagner l'Ontario comme ils l'ont fait la dernière fois. C'est pour ça que Jack Layton va avoir beaucoup de difficultés.
La bataille sera difficile au Québec, surtout à Montréal, mais il faut surveiller également Rosemont, petite patrie, avec Boulris.
Alexandre Boulris, le dernier des Mohicans, appelons-le, mais Alexandre Boulris, pour moi, a réussi à ce moment-ci de sa carrière de faire du comté de Rosemont, petite patrie, son comté avant d'être le comté du NPD. Et ça, c'est une grande force pour Alexandre Boulris. Les électeurs du Bloc, dans ce comté-là, sont naturellement tournés vers Alexandre Boulris. Rappelons que tous les partis ont approché Alexandre Boulris pour qu'il change de parti. Il est resté fidèle au NPD, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses idées politiques. C'est tout à son honneur. Pour moi, Alexandre Boulris est un incontournable de la politique canadienne. Je ne le vois pas perdre son élection à ce moment-ci. Au contraire, pour moi, c'est quelqu'un qui même pourrait avoir des ambitions plus grandes advenant une autre défaite du NPD, parce qu'il a justement été capable de transformer un comté et de l'amener à être son comté, où les gens votent pour lui avant de voter pour le parti. Tu le sais, Raymond, en principe, d'habitude, le vote du candidat, c'est 5 % du vote. Mais dans le cas de Rosemont, c'est beaucoup plus que ça.
Alors, si Trudeau a survécu depuis quelque temps avec tous les scandales qu'on a connus, il faut dire que c'est grâce au support du NPD qu'il est arrivé jusque-là.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là ma grande surprise d'avoir déclenché cette élection pour Justin Trudeau. Parce que Justin Trudeau arrivait à gouverner de façon assez aisée quand même avec l'appui du NPD. Et ce n'était pas nécessairement dans l'intérêt du NPD de faire tomber le gouvernement à ce moment-ci, parce que c'est vrai qu'en pleine pandémie, ça aurait été mal vu. C'est là où j'ai de la difficulté à comprendre l'objectif de Justin Trudeau. Et il faut rappeler qu'avant qu'il déclenche l'élection, les trois élections qui avaient eu lieu au Canada avaient reconduit le gouvernement qui était là pendant la pandémie. La Nouvelle-Écosse est venue changer la donne. Pourquoi? Parce qu'elle a démontré qu'on peut changer de gouvernement pendant une pandémie pour regarder l'avenir sous un nouvel œil. Et c'est là où les conservateurs viennent de prendre une option sur la victoire. Maintenant, tu le sais, Raymond, en politique, ça va très vite. Les débats des chefs sont essentiels. Justin Trudeau est un bon politicien. On n'aime pas sa façon de faire des fois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est quelqu'un qui arrive quand même à faire passer ses idées lors d'un débat, lors d'une discussion. Il aura un énorme défi et il devra montrer quel est le Canada qu'il veut pour l'avenir. Il sera en opposition avec l'austérité conservatrice naturelle qui nous parle de déficit zéro dans 10 ans. Donc, ce sera un clash très fort. Justin Trudeau, jusqu'à maintenant, a perdu son pari. Il a diminué dans les sondages. Mais tu sais, ça peut changer très rapidement. Et je pense qu'il y a encore des chances pour lui qu'on se retrouve avec un gouvernement libéral minoritaire au mois de septembre prochain, le 20 septembre. Mais il faudra qu'il soit prudent.
Pour terminer, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Justin Trudeau a déclenché les élections sans avoir un programme de campagne?
Je suis incapable de t'expliquer pourquoi, parce que je te dirais que vraiment de façon très sincère de ma part, moi quand j'ai vu qu'ils déclenchaient l'élection, je me suis dit, ils sont plus que prêts. Donc ils devraient présenter aux Canadiens un plan clair, un plan complet. Il y a une habitude depuis quelques années dans les élections en général à vouloir sortir la plateforme à coup de petites annonces. Et je te dirais que ça a marché dans plusieurs élections. Moi, je suis un gars de communication. Je trouve qu'avec la pandémie qui prend beaucoup de place dans notre quotidien, ça aurait été bon pour un parti de sortir la plateforme d'un coup, de faire une grande annonce avec toute la plateforme. Là, on sort ça au compte-gouttes. Ça donne l'impression que la plateforme n'est pas claire. Justin Trudeau a jusqu'au débat pour que sa plateforme soit claire. Si au débat, sa plateforme n'est pas claire, tu vas voir que les sondages vont bouger très rapidement. Parce que comme tu dis, il a choisi le moment de l'élection. Il est donc supposé être le plus près du chef.
C'est toujours avec plaisir qu'on te reçoit à l'émission Samedi Midi Inter, hein, Victor Henriques. Je te remercie. Et puis une salutation à notre ami commun, Harold Charles. Et je
tout
vois
à fait.
Que vous avez,
merci
promené, vous avez promené le week-end dernier.
On est allé dans la belle région de Charlevoix. D'ailleurs, je la recommande à tous nos auditeurs. Une belle région à aller visiter, aller passer un peu de temps entre amis. Et on s'est permis de t'envoyer une photo, Raymond, parce que tu sais à quel point c'est toujours important.
C'était
pour
joli,
nous.
C'était joli.
C'est important dans toute nos vies depuis toujours. Alors, merci encore de me recevoir. Puis à très bientôt. Puis salutations.
À très bientôt. Victor Henriques, stratège en communication. Nous allons faire une petite pause.
À environ 7,8 milliards de dollars américains. c'est près de 120% de produits intérieurs bruts et liens pendant la période, pendant l'année, ça. Ça veut dire, c'est plus que toute richesse pays en tant que produit pendant l'année, qui, en quelques secondes de tremblement de terre, là, qui disparaît en plus de quantité mondiale qui mourir. Et puis, 6 ans plus tard, on va aller dans le grand sud, ça qui s'est passé avec l'ouragan Matthew. Donc, on gagne en 2010 tout l'ouest dans les centres-villes là, qui, du point de vue économique, c'est plus de 90% d'activité économique pays en général, qui casse en 2010. Et puis, on est en 2016, on va aller tout le grand sud, là, sud, grand est qui va affecté par l'ouragan Matthew. Estimation pour aller chiffrer à près de 2,5 milliards de dollars américains. Et puis, qu'on est 5 ans plus tard, en 2021, on vient de tremblement de terre. Ça, estimation vraiment préliminaire que l'autorité a fait présentement. Il a été présenté mardi, en fait. Le ministère de planification est en fait état de environ 1,5 milliard de dollars américains de pertes de dommages. Donc, si vous regardez bien, tout ce total-là, ça veut dire dans 11 ans, pays a perdu dans la question catastrophe naturelle, ça y est, plus que 11,3 milliards de dollars américains. Et on a parlé d'un pays pauvre qui a un budget qui n'a même 2 milliards de dollars américains. Donc, en gros, on regarde tout le bagage, ça, yo. Autant qu'à 10 pays en prenant dans sa économie du développement, il y a un trappe là. Meilleure illustration que je peux avoir pour trappe là, pour mon capitaine de yo, c'est un coup. Soit j'ai pelé un rat, qui était qu'on mettait longtemps.
Ah, en effet.
Le bien rat là, car il y a.
J'aime souris, ta rat.
Donc, ça, il dit, le rat là, après la donne, t'as 15 jours pour le souris, la donne. Donc, catastrophe naturelle, ça, yo, vulnérabilité pays par rapport à catastrophe naturelle, yo, fait que t'as coupé y'a prenant, non, on trappe, non, sorte de pèlerin rat, qui fait que le pas cassé de tête. Puis, parce que, imaginons, je veux dire, là, n'importe où, on regarde des canards, donc, c'est quel tremblement de terre 2010, ça, il dit, bon, on paquette monde, pas jamais arrivé sur de tête, yo, de ça qui est passé en 2010, ça. Soit, les nageurs de Moutou, bien, dans le campérin, dans le sud en général, on prend compte que une équipe qui était affectée par l'ouragan Matthew, qui peut arriver à reconstruire la tête. Et puis, quand on y a pas de RVC, on a levé la tête, on a tombé dans un tremblement de terre 14 août 2021. Donc, et nous avons fait continuer la réflexion. Nous avons dit, par exemple, sous son jeu, et Raymond, sous son cyclone Azel, sous son cyclone David en 1979, Azel c'était 54, sous son l'autre gros tremblement de terre qui était passé en 1842 dans le nord, côté historien ou rapporté, et même un poète comme Thomas, qui j'aime sur les Denis Vardy, l'homme en fait, dans le nord, qui a raconté ça qui s'est passé, qui dit que plus que 50% de la population a été mourue dans le tremblement de terre, plus le tsunami qui est passé dans le nord. Donc, là, on prend tout bail, on met ensemble, on ne vient pas comprendre que au niveau individuel pour mon yo, mais au niveau global pour le pays, on vient prendre un engrenage que chaque temps a essayé de faire, on tue là en termes de développement économique et de création de richesses, eh bien, on gagne, une catastrophe naturelle qui paraît qui anéantit tout, évidemment, pour nous finir sur point ça, Al et Raymond, c'est que, en pile, le monde dit que c'est mauvaise gestion, c'est mauvaise gouvernance. Effectivement, ça a un rapport vraiment avec ce développement pays. Hein. Mais imaginez tout simplement que vous avez un pays qui n'a pas fait face avec tout faille sismique, ça, ou bien qui n'a pas une zone qui a tout risque de catastrophe naturelle, ça, yo. Même là, il y a une mauvaise gestion, même là, il y a une mauvaise gouvernance, nous n'avons pas tapé dans l'État, ça. Évidemment, mauvaise gouvernance et mauvaise gestion en tout, rend nous beaucoup plus vulnérables parce que il y a un tremblement de terre qui est plus fort que ça, qui passe au Japon, qui passe au Chili, qui passe tout dégât ça a dit tout à fait dégât du tout parce que moun sa yo même yo construit une forme de résilience qui permet de cohabiter avec ce type de désastre naturel. Donc en gros, pour pas qu'embé kon notre pomme de l'autre question que vous posez, ce point ça que nous avons développé dans texte ça que moi j'ai publié semaine ça dans des idées pour le développement que nous publions chaque mois dans le nouvel.
Alors, et c'est quand même très important pour nous dire que Haïti, c'est troisième rang des pays les plus affectés par les désastres naturels.
Justement, et moi, prends temps pour mentionner ça et pour me développer ça tout, c'est parce que très souvent, dans la presse internationale, ou juste en Néo-Zou, que Haïti, c'est un pays qui est pauvre dans le continent. Mais les pauvres dans le continent, très probablement, il y a un rapport avec le troisième pays qui est plus vulnérable, qui est plus exposé aux risques, aux catastrophes naturelles. Donc, et c'est exactement ça que tu as expliqué tout à l'heure, dans le sens que, on imagine un monde qui était bien business, le business s'est écrasé en 2010, il a essayé à Bruxelles. En 2016, il écrase encore, il prête comme la banque là pour refaire encore. En 2021, il écrase encore. Donc, Mounsa, on s'est vicieux, c'est un coup son perpétuel recommencement en fait. Et probablement, à chaque fois, il tombe plus bas que Jean Le Théier, qu'il a essayé de sortir de ses clients. Donc, lors d'un pays qui fait face à autant d'intempéries, autant de catastrophes naturelles, création de richesses devient beaucoup plus difficile au niveau individuel et donc au niveau collectif. Et c'est ça qui fait que on pas qu'à juste contenter de ce pays qui est pauvre, mais il faut qu'on prenne en considération et tout facteur ça. Évidemment, il y a monde qui dit que ou bien ce domaine d'à côté qui sont même là, mais on a constaté tout que ce domaine n'est pas affecté autant par des désastres naturels. Évidemment, il faut dire que la qualité de gouvernance est beaucoup mieux en République dominicaine et on va prendre en compte que même, par exemple, en termes de couverture forestière, il y a un paquet de niveaux en termes de gestion en général, il fait beaucoup mieux que nous. Donc, ça veut dire que il est moins vulnérable. Non seulement ils n'ont pas affecté autant par une catastrophe naturelle, mais même si ils ont affecté par une catastrophe naturelle, ils ont plus en mesure pour faire face à elle. D'ailleurs, ils ont été ni en 2010, ni en 2021, après le tremblement de terre, ils sont donc parmi les premiers pays qui ont été débarqués avec une série de bateaux qui viennent porter aide à mon sinistré en Haïti, en fait.
Alors, gon corrélation que nous sommes capables de faire entre un pays le plus pauvre et le pays le plus affecté par les catastrophes naturelles?
Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas à sortir de là. Évidemment, j'aime te dire tout à l'heure, moi, je ne vais pas chercher excuse à mauvaise décision politique qui prend un pays en tout, mais là, on n'a pas analysé, on est obligé de tenir compte de tout facteur, les facteurs climatiques, les facteurs géographiques, là. Non pas qu'à minimiser. Tout comme il n'y a pas de minimiser tout dans toute littérature sur le développement, dans l'économie du développement, où il y a un auteur comme Jeffrey Sachs aux États-Unis, il mette un pile aspect sur le facteur géographique. Là. Évidemment, pas toujours dans le même sens que tu as parlé de l'île en termes de catastrophe naturelle, mais il y a un aspect que je mentionne qui est extrêmement important, c'est que positionnement géographique en pays bien doit faire ou bien on importe ou on beaucoup plus grande importance en termes de géopolitique et géostratégie. Par exemple, c'est pas sans raison États-Unis, Canada, on parle que bien plus se intéresse à Afghanistan parce qu'il est placé au côté stratégique. Ou bien Taïwan, par exemple, ou bien de Corée du Sud, qui est juste à côté là, de Corée du Nord, et qui à un certain moment, tout bloc capitaliste à États-Unis en tête, c'est de l'épreuve Corée du Sud pour faire venir un miroir du capitalisme à travers le monde, juste à côté de Corée du Nord, qui est extrêmement communiste, pour montrer justement effet de deux systèmes ça yo pour le tangible à n'importe quel autre pays qui t'a fait son choix entre deux systèmes ça yo pour t'apparaître visible que ce capitalisme qui va avoir un meilleur résultat en termes de développement économique. Ou bien, à un certain moment, on a Haïti par le genre de position géographiquement, qui t'a quand même important dans ce sens là pour des grandes puissances, mais malheureusement, dirigeant Haïti n'a pas exploité en termes de géopolitique ou géostratégie politique. Mais il était important tout que coto placé a qu'a fait que ou sous des failles sismiques alors que on l'autre pays qui passe sous failles sismiques pas dit pour faire face avec autant de catastrophes naturelles et j'aime pas dire d'ailleurs j'ai fait ça que son l'autre aspect qu'il considérait c'est aspect côté que bon série de pays en Afrique par exemple qui plus enclavé que l'autre alors que bon série de l'autre pays de contact avec la mer et dans le temps avant de gagner avion avant de gagner type de transport l'autre type de transport rapide ça yo c'était par bateau bien ils ont été conséculés et même mounio et ça qu'on a près du temps de l'esclavage donc plus tu es près des côtes c'est plus tu es facilité le commerce avec le reste du monde et le commerce avec le reste du monde, ça te permet d'exporter plus facilement et donc c'est bon, on a certains avantages au niveau de la création de richesses, au niveau de croissance économique et de développement en général. Donc, c'est pas un point ça extrêmement important dans la littérature sur le développement économique là-dedans.
Alors, et docteur, et Lalim, si nous regardons par exemple, et je crois que c'était cette semaine, au début de cette semaine, côté que le sismologue Claude Prepty est sorti un article, côté qu'il dit que le Cap est menacé. Et si nous allons dans l'histoire, et c'est une deuxième fois, côté que le Cap va tomber dans Mira, et 7 mai 1842, eh bien, Villa est presque disparaître. Et si pas gagné des mesures qui prend, eh bien, catastrophe ça, il est capable de retourner pour la ville du Cap.
Oui, en fait, quelles que soient les mesures qui prend, c'est sûr que là pour retourner. En fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on se fait sismique, à un moment ou l'autre, on est victime de tremblement de terre. On y a. Toute question, c'est comment on prépare pour laisser arriver, parce que malheureusement, la science ne permet jusqu'à présent que nous prévoyons qui laisse arriver, pour dire que okay, tout le monde a quitté la ville là, il y aura le sud parce que il y aura un tremblement de terre là, ou bien tout le monde a quitté la ville là, il y aura dans l'autre zone parce qu'il y a un tremblement de terre dans le sud. Mais ce qui est important, c'est que techniquement ou bien scientifiquement, solution existe déjà. Et solution, nous songeons, moi, j'ai fait quelques jours en Chili. Et le premier jour, moi, j'ai Chili, n'a pas mangé. Et puis, j'ai dit, moi, tout à fait, tu as tremblé. Et puis, mais moi-même, j'ai paniqué, mais tout l'autre monde qui était avec moi autour de table, ils n'ont pas pris ça pour rien parce qu'ils sont habitués. Et ils connaissent tout que. Il y en a des maisons qui parlent à sous-sync, et même si tu es à trembler fort, ça ne peut pas faire aucun problème en fait. Moi, j'ai été fait en quantité de temps, en fait, environ 5 semaines au Japon, c'est même genre, j'y retournais, tu es à trembler, mais le monde continue sa activité normalement, sauf si son gros tremblement de terre par rapport à mon qui prélève, mais il connaît des risques de tsunami, mais pour tremblement de terre là, pour Mounsaïo, pour Japonais, ou bien pour Chiliens, ils n'ont pas considéré que son problème en soi. Évidemment, qu'on y a dit nous a dit tout, pour construire de façon résiliente des bâtiments parasismiques, ça a un coût, en fait. Et là, nos pays pauvres, j'en ai habitué de dire, pays pauvres dans l'hémisphère, ils ont dit nous a dit, qui gens mon yo a qui possibilité gain pour mon yo faire face à coup ça mais moi m'tagé doit pas dire que problème ça pas poser non mais m'tagé doit dire c'est pas le plus important pour une raison très simple que sous regarder bien on pourrait on paquet gros cailles qui tomber et autant même doit dire c'est plus gros cailles qui tomber cailles tomber même si on tomber pas fait trop de dégâts ou bien l'autre caille dans la province qui qui est en bois ou bien petit caille qui glisse, qui couvre en cache, caille ça n'a pas vraiment posé problème. Donc, quelque part, c'est pas un problème de, d'argent vraiment parce que c'est plus gros caillot qui tombe. Donc, quand on vient de la visite et tout, au lieu pour ne pas faire un caille, un hôtel par exemple à 5 étages ou bien faire un caille à 2 étages, l'itégué doit dire que c'est beaucoup plus sécuritaire pour le fond hôtel à 3 étages, ou bien pour le fond caille seulement avec une rez-de-chaussée, puis en l'air, il peut-être pas fait en béton, mais le fait avec une autre structure qui est plus légère, qui va permettre de caille à résister, même s'il n'y a pas de tout espace avec les bons étages. Là. Donc, on rend compte que c'est plus une question de sensibilisation et d'éducation que une question de finance, vraiment. Et c'est ça qui fait. Il est important pour nous parler de ça. Et il est important tout pour l'autorité prendre des mesures, par exemple, notamment au niveau mairie ou bien au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de tout l'État en Haïti en général, pour gagner des normes strictes qui appliquent pour empêcher que nous fassions une série de constructions et pour éviter, pour limiter les dégâts et pour permettre que nous adaptions à risque. Côté Nabdivla et nous obliger à faire ça. Là.
Alors, et pour nous terminer, une petite question que nous avons posée. Est-ce que la déforestation, pas y a grand problème, non? Nous pas planté, nous détruit les arbres et en plus, comment nous capables de sortir dans tout ça?
Ça, c'est un problème, effectivement. Et si vous regardez bien, on va prendre compte que l'ouragan massif. Pour le moment, avec estimation préliminaire, c'est qu'on a fait beaucoup plus de pertes et dommages pour une raison très simple, qu'avec tremblement de terre là, pas vraiment d'un pile jardin qui est crasé, pas vraiment d'un pile et sauver la nature, nous sommes d'année la série, j'ai dit ça dans tout bouge autour de moi, c'est ça m'a ajouté sur la construction, votre bagage, c'est eux-mêmes qui crasé. La nature en tant que telle, à part quelques côtés moyens dans le sud, en tant que terre à fond et bête ou bien pied-bois tombé là-dedans, mais sinon, tremblement de terre là, ce n'est pas le principal effet que le gagne. Mais dans ce sens, inondation et ouragan, cyclone, qu'on fait encore plus dommage, mais plus dommage, on fait justement. Très souvent, c'est éboulement de terrain, et éboulement, ça a eu et tout, très souvent, parce que tout simplement, j'en vois bien, on a une situation que mon déboisement et déforestation, en fait, à outrance, mais parce que c'est un moyen de survie, toi, à un certain moment, pour en catégorie dans la paysannerie, qu'on ne vient pas qu'à critiquer, parce que on n'a pas prêté la mourir, et alors, ce que les pieds-bois là, et seuls pieds-bois, ils étaient qu'à fond de charbon pour le vivre. Donc, la misère permet ça tout. Mais l'autre question, c'est qu'en République dominicaine, nous sommes conscients de ça depuis longtemps, depuis les années 40, et depuis le ça, président, quoi c'était Balaguer, ou bien quoi c'était Trujillo, depuis Trujillo, il était pris la décision pour c'est l'armée qui a surveillé les forêts, en fait, qui fait que. En Dominique, pas quand même juste décidé la coupe en pied bois, j'en ai des îles, en fait. T'as coup, ça a fait quand même. T'as coup, j'en ai dans n'importe quel autre pays. Même si Dominique a un quelconque problème de précarité, de défensive, il connaît pas qu'à couper pied bois parce que, à un certain moment, il a coupé autant de pied bois, t'as coup, j'ai une couverture forestière, là, t'es très faible en Haïti. Mais c'est ni propre que tout, mais tout reste bien qui est beaucoup plus vulnérable et qui lègue tempéri sa yo et tout le monde paye conséquence en fait. Donc à un certain moment, même j'en ouais mon yo après conduit pour aller côté aide dans le grand sud là, c'est même j'en mon yo t'a supposé faire conduit tout pour reboiser pays et son conduit pour sortir pays dans le niveau. De pauvreté saliée là, et font combite alpha d'utilisation et sensibilisation pour tout le monde qui a un certain niveau d'éducation dans le pays et un certain de conscience citoyenne tout, qui permet de connaître qui ça au café mais qui ça au pas de faire. Donc c'est son gros chantier. Malheureusement après 2010 après il fait comment on a dit immédiat tremblement de terre là. Par la suite, nous n'avons pas continué la mobilisation, hein, mais en fait, nous avons une mobilisation qui peut permettre de nous sortir dans l'état de déliquescence que nous connaissons à tous les niveaux.
C'est toujours avec grand plaisir que nous recevons l'émission Samedi Midi Inter comme notre analyste. N'a pas dit au merci, mais avant que nous allions, est-ce que nous n'avons pas dit que c'est dans le mouvement ça pour nous voir l'importance de la diaspora haïtienne?
Pour nous, l'importance de la diaspora haïtienne, mais pour nous, l'importance de toute élite en général, l'autre doit considérer la diaspora, je dirais, pour l'élite financière. L'autre, on ne peut pas parler de bourgeoisie, mais en Haïti, bon, on continue à parler de bourgeoisie en Haïti, mais si on regarde pour classe moyenne ou bien une classe défavorisée, c'est plus la diaspora qui va mettre les survivre en Haïti. C'est le moment pour la diaspora en action. Mais ce moment pour toute notre élite politique là, qui peut à un certain moment arriver précoce parce que y a obligé de faire ton lot de gens dans le niveau politique là, et dans le niveau élite économique en Haïti, ce n'est pas seulement diaspora, mais c'est toute élite qui peut exposer précoce et changer ses yeux du pôle pour dire à partir de ça qui passe 2010, 2016 et 2021. N'a pas l'autre temps. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Nous, même pour mettre un consensus politique, pour connaître quel type de gouvernement de transition après Jovenel Moïse, c'est tout un combat, c'est tout un parcours de combattants qui fait que si on n'a pas vraiment de la foi dans que il y a changé dans le pays, on n'a pas très pessimiste. Mais vous connaissez moi-même dans l'émission Ce Bravo, on a toujours dit que plus de problèmes pour résoudre, c'est plus d'opportunités tout. Donc ça, c'est une raison qui fait nous pas pessimistes et n'a toujours dit il suffit que nous jouions bon mounio, bien possibilité pour nous une solution. Yo, t'as quoi genre l'autre peuple, t'as quoi chilien, yo, t'as quoi japonais, yo, t'as quoi pile l'autre peuple taïwanais, yo, dans le monde qui était chinois, yo, qui était un peuple très pauvre qui je dis on grande puissance économique. Donc, si l'autre peuple a fait, Haïtien a fait tout, nous avons déjà fait l'histoire mondiale, nous avons fait le premier peuple noir indépendant. Donc, je dis, si nous avons fait même mobilisation, ça y est, nous avons vaincu le problème de l'Aïo, notamment le problème de pauvreté, le problème de vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
C'est toujours avec plaisir que nous recevons. On a pédé au merci. Et puis moi-même, je n'ai toujours qu'un petit slogan. Haïti d'abord.
Haïti d'abord, et moi partage ce slogan avant. C'est moi qui remercie Laurent et moi toujours disponible pour Haïti Midi Inter. Pour Samedi Midi Inter, on ne va pas dire Haïti Midi Inter, mais Haïti est toute semaine, c'est pas samedi seulement. Mais c'est toujours un plaisir.
Merci. Alors, docteur Thomas Lalim, docteur en économie, on va le faire pause, on va tourner, rétablir.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Dis-moi pas de connaître. Sous demande générale dans le pays Canada. Attention, Montréal, Laval, Toronto, Ottawa et La Trinité. Bateau Gros l'Estomac, Joël Bonomède et Elisabeth Nouet Shipping, qui viennent shipping ou en Koulia, ou en Vinvinou, toute misère, tout tracas mon Canada Kaba. Bateau a venu charger Canada, pour louer nous dans tracas transport automobile pour Haïti. Camion, trailer, container, pick-up, jeep, yacht et même hélicoptère. Il débarque au Haïti chaque 4 semaines. Qui donc, nous pas besoin de jambes frontières, ni mettre machine dans le conteneur pour ni colbosso, ni tomber dans l'eau. Problème ça résout, grâce à Joël Boulomet, pour machine aller bien vite et sans difficulté. Téléphone
438 992 83 43 ou le 201 435 15 70.
Pas dit non, pas de connaît.
Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour à tous les auditeurs de CKUT et bien entendu un bonjour spécial à tous les auditeurs résidant à Montréal-Nord. Mon nom est Christine Black. Je suis la mairesse de ce magnifique arrondissement. En mon nom et également au nom de mes collègues élus Chantal Rossi, Adèle Aksari et Jean-Marc Poirier, je désire vous rappeler que la campagne de vaccination pour vaincre la COVID-19 se poursuit tout au long de l'été. On espère tous reprendre une vie normale, puis il est important de prendre le temps de se protéger soi-même et de protéger ceux qu'on aime. Ensemble, on va y arriver. La clinique de vaccination de Montréal-Nord, située à la place Bourassa, offre de la vaccination avec et sans rendez-vous. Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Il y aura également plusieurs cliniques de vaccination mobile tout au long de l'été, lors des événements extérieurs. Vous désirez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à composer le 514-644-4545. Mes amis, pas fait tête due. Demandez-nous, s'il vous plaît, Alpran Vaccinant. Là, bon pour nous, avec toute ma grande famille Montréal-Nord. Merci en pile.
Mes amis, élection 2021 arrivée. Ici Emmanuel Dubourg. Je sollicite votre appui à nouveau comme candidat libéral dans Bourassa. J'ai besoin de votre appui. Mes amis, admettez votre là pour moi dans Montréal-Nord. Avançons ensemble avec les libéraux. Téléphone 514-326-1740.
Avez où map marché?
Autorisé et payé par l'agent officiel d'Emmanuel Dubourg.
Travaille, ma travail, oh.
Alors, et moi, gagne avec moi depuis Haïti, docteur Ulysse Chenet. C'est un spécialiste, non capable de dire, dans affaires aide humanitaire. Côté docteur Ulysse, il fait un viriron dans le sud-là. Et docteur Ulysse, Napédio, bonjour et bienvenue sur Radio CKUT.
Eh bien, bonsoir, mon ami Raymond Laurent. Et qui t'aime saluer les techniciens, Niki Mix, qui a fait manœuvre technique. Et puis, tout staff qui a coordonné l'émission avant, nous saluons très fort. Et puis, nous saluons tous les fidèles, auditeurs, auditrices, qui ont une chaîne d'émission, ça, et que nous saluons tous.
Alors, et depuis semaine dernière, là, et ou toujours avec nous, pour Banon, et comment situation liée. Et nous connaissons que vous avez une équipe technique qui accompagne vous. Et qui est capable de dire non, qui résulte à vous et qui aide que vous portez avec Monio qui, dans le besoin, qui dormit toujours en bas l'appui. Et goudou goudou.
Eh bien, très bien. Et ce qu'on a fait et la semaine dernière, c'est que dans le cadre des premières semaines d'activité humanitaire et après le tremblement de 14 août 2021, nous t'es allé tout d'abord à faire l'évaluation pour nous t'es voir comment l'activité a déroulé, comment l'État central comporté, comment l'État local a comporté, et puis comment l'activité a coordonné. Et c'était vraiment difficile en matière de coordination et de planification. Et sur le plan technique, ça a été vraiment difficile à tel point que j'ai un pile aide internationale qui commençait à priver dans la communauté, mais aide n'est pas capable par le fait que bon mauvaise coordination et une mauvaise planification et que collectivité ou pas impliquée, ça devient une tâche là beaucoup plus difficile. Alors en fait, non seulement on a fait l'évaluation globale sur situation, mais aussi nous avons tout profité pour nous renforcer capacité et collectivité en matière de planification de réponse humanitaire et surtout en matière de coordination aide humanitaire pour sur le plan technique, pour nous être capables d'armer des outils, pour nous être capables de comprendre comment pour nous permettre d'aider là, de rejoindre beaucoup plus facile les vraies victimes.
Alors, et Dr Chenet, est-ce que nous sommes capables de dire que l'État est complètement absent dans la tragédie Sahara que le peuple a vive depuis le 14 août, journée tremblement de terre?
Moi, je ne veux pas dire que l'État est complètement absent. L'État plutôt souffre d'une déficience et technique, et sur le plan technique, il n'est pas préparé, et on a une déficience stratégique. Parce que normalement, pour être capable de capacité pour répondre avec une catastrophe majeure pareille, il faut qu'il y ait tout d'abord ce qu'on appelle le plan de contingence. Ce que l'État n'a pas et que le pagain n'a plus sur eux, il a toujours préparé un plan de contingence pour permettre que si on a une catastrophe, si on a une inondation, si on a un incendie, si on a un problème de tremblement de terre, quand on a gagné et dans le sud-là, ça vient de faire que il n'est pas prêt pour porter la première urgence. Et bien c'est ça qui rend l'État faible. Et ça vient de faire que c'est des gens qui sont capables de dire l'État absent, mais c'est plutôt c'est faible, l'État faible, sur le plan technique, sur le plan stratégique, sur le plan logistique et sur le plan économique.
Alors, et l'arrivée dans qui est ta zone que tu as visité, côté que tu y es, parce que nous, pendant que tu as une aide humanitaire qui a rentré, qui a sorti tout côté pour venir aider malheureux, nous avons gagné un détournement et cap fait, et pendant que mon yo même yo compté sur aide diaspora pour aider yo.
Évidemment. Eh bien, le vrai problème, c'est quoi? C'est que tout est concentré au centre-ville de Kay. Et pourtant, victimes est habillées partout, yo dans les autres communes, yo dans les sections rurales, et malheureusement, toute activité humanitaire est concentrée au centre-ville de Kay. Et pourtant, victimes a subi dans l'autre communauté. Yo. Et quand c'était Kay qui crasait, qui endommageait dans la zone rurale, yo, il est presque équivalent à ça qui crasait au centre-ville. Yo. Et pourtant, c'est dommage, l'État concentré toute activité, toute force, toute ressource dans le centre-ville de Kay. Et pourtant, l'autre commune, yo, l'autre zone rurale, yo, a souffri, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise coordination, une mauvaise planification, et ça vient créer forme de mécontentement à tel point que, ouais, sur la route nationale numéro 2, lorsque il y a des camions d'aide humanitaire qui prennent les non-zones, population dans la zone et dans la zone, il y a tendance pour non seulement piller les camions d'aide humanitaire là, et puis détourner parce que bon mauvaise planification sur le plan géographique, il n'y a pas pris en compte toute zone qui touche pour être capable de servir d'une manière à la fin indienne. Donc c'est déjà une mauvaise coordination qui crée des frustrations et qui vient un gros impact sur l'agent humanitaire.
Alors, on a parlé d'équipe que vous avez avec vous, au nombre de combien, Dr. Chenet?
Normalement, nous avons une équipe de 15, nous avons 5 qui étaient dans NIP, et disons, nous sommes allés en Savo, Petite Rivière de NIP, Baradère, et puis nous avons 5 qui étaient dans le sud, et nous avons 5 qui étaient dans le sud, là, et là, comme nous avons, et puis nous avons 5 autres qui étaient dans le Grand Est, qui donc nous avons une équipe de 15 personnes et qui a fait non seulement évaluation, qui a fait activité humanitaire, bail soins dans la communauté, distribuer des prix là, et puis travailler avec collectivité pour renforcer la capacité. En gros, c'est ça. Et à partir de semaine prochaine, nous allons lancer une activité de protection et des enfants et des femmes au niveau communauté et puis avec activité psychosociale.
Alors, nous connaissons que les gagnants tremblement de terre, me rappelez-moi, en 2010, c'était même bagaille. Lougarou a volé, viol a fait, et nous, ouais, c'est la même répétition et qui se répète.
Évidemment, et d'ailleurs, à Jérémy, d'un jeune fille, une petite fille de 13 ans, et qui a été violée, et que c'est dommage, et comme étant donné, il y a une équipe qui a gagné et des avocats, parce que ont fait assistance légale là, ils ont fait assistance légale là, et bien c'est ça que fait nous-mêmes au niveau de Medica Haïti, l'autre partenaire, nous, quand on est là-dedans, nous allons implanter le programme de protection de l'enfant et le programme de lutte contre la violence.